Vous écoutez
RMC.
C'est Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Philippe Poutou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ouvrier, licencié, syndicaliste, candidat à la présidence de la République pour le nouveau parti anticapitaliste. Je ne suis pas un professionnel de la politique, dites-vous. Enfin, ça fait quand même quoi? C'est la troisième fois que vous êtes candidat à la présidentielle? Ouais. Troisième fois. Ouais. Pas professionnel, mais presque.
Hein. Ouais, nous, oui. Nous, on dirait plutôt professionnel du militantisme.
Professionnel du militantisme.
C'est quand même une mission militante. Et...
Bon, parlons du Covid. Philippe Poutou, passe vaccinal, vous êtes pour ou contre?
On est contre.
Vous êtes contre le passe vaccinal?
Contre le passe vaccinal, contre l'obligation de vacciner. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile à gérer parce qu'on est pour la vaccination. En fait, on est pour une campagne de vaccination. On est pour l'idée de convaincre. Oui, on pense que c'est.
Vous appelez les Français à se faire vacciner.
Je sais pas si ça a un sens que moi j'appelle, mais on pense que c'est un moyen de protection qui est réel. Et voilà, mais là par contre, ça pose le problème aussi de la vaccination à l'échelle planétaire et le paradoxe dans lequel on se trouve quand même aujourd'hui. C'est que les pays riches sont vaccinés, ou en tout cas il y a des politiques de vaccination dans les pays riches et il n'y en a pas dans les pays pauvres. Je crois que c'est 2% de la population mondiale dans les pays du Sud qui sont vaccinés. Et d'ailleurs, on a un problème aujourd'hui avec les variants qui viennent de ces pays où la population est très peu vaccinée. Donc il y a aussi ce problème, cette incohérence qu'on critique, c'est qu'il faudrait une planification de la vaccination à l'échelle planétaire et ça suppose la levée des brevets et donc s'attaquer à un truc qui est quand même assez scandaleux, c'est les profits de l'industrie pharmaceutique.
Ça représente 10% pour Pfizer.
Nous, on pense qu'il faut socialiser l'industrie pharmaceutique et lever les brevets et de manière à ce que, justement, il puisse y avoir une vraie politique de vaccination de la planète entière.
Vous êtes vacciné?
Mais on est contre, oui, bien sûr.
Vous êtes vacciné? 3 doses?
Bientôt
la troisième, le rappel.
Bientôt le rappel. Mais voilà, vous comprenez, en fait, nous, on est contre l'obligation dans le sens où, de toute façon, ça ne règle rien. On le voit, c'est des conflits, c'est des problèmes. Derrière, c'est des licenciements de salariés.
Les irréductibles, comment les convaincre?
Pour convaincre, il faut être crédible et le gouvernement n'est pas crédible. Il y a eu trop d'incohérences, trop de mensonges et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, imposer le vaccin, ça devient pour plein de gens suspicieux. Et on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Donc la seule méthode du gouvernement, c'est d'imposer. Et il s'en sort pas avec ça. Et l'autre incohérence aussi, nous, on pense qui est fondamentale, c'est comment on peut faire face à une crise sanitaire sans poser le problème de développer le système hospitalier, le système de santé, mettre des dispensaires de santé dans les quartiers, embaucher, former. Et voilà, on peut pas se contenter
du temps d'un... pour embaucher.
Bien
former.
Sûr. Mais là, ça fait un an et demi que la crise sanitaire a commencé, et on s'aperçoit qu'un an et demi après, il y a des lits qui sont encore supprimés et les moyens ne sont pas donnés. Donc voilà, il y a quand même une politique de santé publique qu'il faudrait faire et ce n'est pas fait. Et du coup, ces incohérences-là, elles provoquent de la méfiance et il devient difficile de convaincre et c'est la méthode à coup de force. Et ça, ce n'est pas bon.
Face au virus, quelle décision prendriez-vous? Si vous étiez au pouvoir, là, que feriez-vous?
Déjà, c'est développer le système de santé.
Développer le système de santé. Il faut du temps. Je suis d'accord, mais à part ça, que feriez-vous?
C'est-à-dire, là,
décision? Non, ne craignez rien, Philippe Poutou. Quelle décision prendriez-vous? Vous seriez à la place d'Emmanuel Macron, là, face à ce virus, face à Omicron,
c'est ce qu'on dit.
Face à cette déferlante qui s'annonce.
C'est ce qu'on dit depuis un petit moment.
Qu'est-ce que vous feriez?
Campagne de vaccination, mais qui est en lien avec un développement du système de santé. Donc, le système de santé, que du jour au lendemain, on réouvre pas tous les lits qui ont été supprimés, on réouvre pas tous les hôpitaux, et puis il n'y a pas évidemment assez d'infirmiers et d'aides-soignantes
c'est
une politique d'urgence. Voilà, il faut donner des moyens. Ça veut dire rompre avec les politiques de libéralisation des hôpitaux. Vous avez compris.
Mais sur la politique sanitaire, quelle décision prendriez-vous? Rien de plus et rien d'autre.
C'est déjà pas mal face à la crise sanitaire si on discute justement de comment on peut. Et nous, on pense que par exemple, des dispensaires de santé dans les quartiers, c'est fondamental. Mmh. C'est-à-dire développer une sorte de maison de médecine publique qui permette à la fois d'assurer les tests, la gratuité des tests, par exemple, nous, on pense que c'est fondamental, la vaccination et puis même la relation avec les habitants, rassurer, informer, sensibiliser. Voilà, c'est ça aussi une campagne vaccinale, c'est qu'il y a un personnel et des structures qui soient bien présente et en fait voilà c'est ça l'urgence à notre avis. L'urgence c'est pas vendre des rafales.
La campagne vaccinale,
vous voyez là aujourd'hui le gouvernement se vante d'avoir un contrat fabuleux des rafales et nous on pense que le contrat fabuleux ce serait justement de remettre en place
génère des emplois.
C'est pas parce que ça génère des emplois qu'on est pour, on peut aussi penser que la santé peut générer énormément d'emplois.
Les syndicalistes de chez Dassault sont pas d'accord avec vous.
Mais nous on pense que l'emploi ça peut être reconverti je pense qu'il y a plein de syndicalistes de chez Dassault qui aimeraient bien faire autre chose que des armes s'il y avait la possibilité de faire autre chose et nous on pense que développer développer un véritable système de santé, et même tout ce qui peut être social. Il y a les secteurs sociaux, médico-sociaux étaient en grève il y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il manque de moyens, parce qu'il manque de gens partout pour pouvoir aider la population. Et on sait que la crise sanitaire, c'est pas juste un problème sanitaire au sens de santé publique, c'est aussi une santé psychologique. Et on voit qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont qui dépriment, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc on voit qu'il y aurait besoin de recruter, de former et de développer à fond tout ce
Philippe
système.
Poutou, si j'ai bien compris, face à la crise sanitaire, vous développez le système de santé, vous vaccinez, grande campagne de vaccination, vous recommandez le port du masque, vous recommandez
les gestes barrières qui paraissent aujourd'hui incontournables.
D'accord. Et dites-moi, et les faux passes sanitaires, qu'est-ce que vous feriez? Vous sanctionnez ou pas?
Ben, si on a une politique de convaincre, on pense qu'il y aurait beaucoup moins ce problème-là de triche, de passer à travers.
Ça, c'est facile.
Non, c'est pas facile.
La réponse est facile.
Ben, c'est la logique même. Non, mais un gouvernement qui impose et qui se comporte comme il se comporte, forcément, il y en a qui répondent de.
Vous les comprenez?
Vous savez qu'il y a plein de riches qui détournent l'argent dans les paradis fiscaux. C'est pareil.
Vous les condamnez, ceux qui détournent l'argent dans les paradis fiscaux?
Oui.
Donc vous voulez aussi condamner ceux qui se font faire de faux passes sanitaires.
Nous, on pense que c'est évidemment pas une bonne. Ben là, il y a des drames. Il y a des gens qui faisaient croire qu'ils étaient vaccinés, puis qui se retrouvaient à l'hosto. Bon, voilà, c'est triste. Là, et là, c'est vraiment dramatique, effectivement. Là, on s'aperçoit que c'est pas du tout une solution.
Bon, pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou?
Parce qu'on a plein de désaccords.
Et lesquels?
Après, c'est le problème de la gauche actuellement. Même si Mélenchon
fait
figure d'une gauche plus radicale que le reste de la gauche, mais on parle beaucoup de l'éparpillement de la gauche, de sa division. Mais nous, on a envie de discuter aussi du fait que la gauche est complètement discréditée, parce que la gauche, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a trahi, elle a renié ses idées. Et aujourd'hui, l'état de la gauche, c'est celui-là, c'est celui d'une gauche qui a plus la confiance de la population. Et donc, du coup, c'est ces bilans-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire, parce que nous, là, ça discute beaucoup de la primaire de la gauche, effectivement, et derrière. Ou Hidalgo, derrière Jadot, ou derrière Taubira, ou derrière Mélenchon. Et nous, ce qu'on a envie de discuter, c'est quelle gauche on voudrait reconstruire. On voudrait pas reconstruire la gauche.
Mais vous êtes prêt à discuter avec Mélenchon?
À débattre, oui, il n'y a pas de problème.
Taubira,
bien sûr.
Avec
toute la gauche.
Avec Jadot,
Mais justement, faire le bilan un peu de cette gauche au pouvoir, parce qu'on parle de Taubira ou d'Hidalgo, par exemple, pas si vieux que ça. Il y a 5 ans, c'était Hollande, entre 2012 et 2017. Hollande qui a fabriqué Macron. Il y avait Valls, et pour nous, ça n'a rien à voir avec la gauche, ça. Et en plus, c'était la loi travail. On s'est fait attaquer socialement. Donc du coup, cette gauche-là, on n'en veut pas du tout. Et c'est quand même intéressant de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui se vantent d'être de gauche aujourd'hui ont mené des politiques de droite ont mené des politiques, mais quand même violentes contre la population.
Est-ce que vous participeriez à une primaire populaire?
Non, la primaire, non.
Primaire à gauche.
La primaire, non, parce que justement, c'est complètement absurde de penser qu'on peut se retrouver avec Hidalgo, Taubira ou Jadot qui ont participé à des gouvernements comme celui d'Hollande et Valls. Voilà, on peut pas ça, on peut pas, parce qu'en fait, il y a une gauche, on le redit, il y a une gauche qui trahit. Et donc nous ce qu'on voudrait discuter, c'est d'une gauche de combat, d'une gauche radicale, anticapitaliste, et d'arriver à montrer qu'en fait, si jamais la gauche arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait le faire. Mais si on a un programme de progrès social,
par exemple, venir sur votre programme.
Comment on l'impose? Et nous, on pense que ce qui est incontournable, c'est la mobilisation populaire, c'est la lutte, c'est un rapport de force dans la société. Sinon, on se fait bananer à chaque fois.
La révolution.
C'est ça la différence.
La révolution.
L'idéal, au bout du compte, c'est ça. Mais même sans ça. Des mobilisations comme on a vu en Algérie, comme à Hong Kong ou même au Chili avant la crise sanitaire, c'est des manifestations énormes et qui mettent une pression et qui montrent, c'est arriver à exprimer à la fois sa colère et l'urgence sociale et puis d'arriver à l'imposer par des luttes. Bon, nous on pense que c'est ça qui est fondamental.
Le parrainage, vous en êtes où?
On est pas loin de la barre des 200 et il nous reste 2 mois et demi et on est dans le rythme d'il y a 5 ans.
C'est plus difficile.
Non, c'est pas plus difficile. C'est aussi difficile en fait.
Ouais.
Et là, à chaque fois qu'on a l'occasion, on lance un appel aux maires, dans les petites communes notamment, puisqu'ils sont pas encartés, et on lance un appel pour dire, si on veut qu'il y ait des candidats comme les nôtres, comme nous, un peu différents, et justement hors du pouvoir politique habituel, ça serait bien qu'ils nous parrainent. Il faut pas qu'ils hésitent, parce que beaucoup hésitent, et beaucoup ont pas envie de s'emmerder avec ça. Et nous, on essaie de les encourager de nous parrainer, parce qu'on pense qu'on est utile, on pense qu'on est légitime, et ça serait bien qu'on y soit,
Est-ce qu'à vos yeux, le fascisme nous menace?
Oui. Plus ou moins pour court terme.
Mais quel fascisme?
Zemmour, pour nous, c'est un fasciste, déjà. Alors, un fasciste tranquille sur plateau, il est invité un peu partout, il dit tranquillement, toute sa haine des autres, et nous, on pense que c'est ça, idéologiquement, c'est le fascisme. Après, c'est pas parce que.
Il y a un fascisme d'extrême gauche aussi.
Non,
parce qu'il y a des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche qui sont aussi violents les uns que les autres.
La violence, elle est de partout. Macron, il a une forme de violence aussi, la répression policière, les attaques contre les manifestations. Donc il y a toujours de la violence. La société est violente de fait en imposant du chômage et de la précarité à des millions de gens. La crise sanitaire, c'est violent aussi. Donc en fait, oui, la violence, elle est diverse. Et la violence fasciste, c'est pas la même que la violence de l'extrême gauche. Et encore, la violence de l'extrême gauche, jusqu'à présent, elle est pas comparable à ce que font les Zouaves ou ce que font les générations identitaires à la frontière en chassant les migrants. Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait pareil, pas du tout pareil même. Non, nous on pense qu'il y a un danger fasciste parce qu'on le voit. Plus la société est inégalitaire, plus il y a justement de pauvreté. On voit qu'il y a une classe dominante, les plus riches, qui se méfient et puis qui ont tendance à commencer à apporter des solutions un peu radicales. Je rappelle c'est l'exemple de Bolloré, le milliardaire, oui, qui soutient Zemmour. On voit comment une partie de la bourgeoisie se positionne un peu comme ça, et un peu comme si ils se méfiaient des risques d'explosion sociale. Et c'est vrai que le fascisme, c'est une réponse à la crise capitaliste.
Je rappelle que vous êtes trotskiste et non pas communiste.
On est
il faut bien préciser.
Aussi, 30 ans
communiste aussi,
de la fin de l'URSS, oui, c'est communiste aussi, mais autrement.
Mais anti-stalinien. Ouais.
Mais anti-stalinien. Bien, la police, elle tue. Vous avez regretté de dire cela?
Pas du tout.
Vous n'avez pas regretté?
Non, parce que la police.
C'est la vérité.
Tue. Ben, la police tue, bien sûr. Après, c'est la
discussion. Vous avez même dit, elle tue une quinzaine de jeunes par an.
Oui, c'est des chiffres qui ressortent de certaines études.
De certaines études, mais on ne sait pas lesquelles.
Mais à la limite, si c'est 15, si c'est 10 ou si c'est 5, la police tuera de toute façon, parce qu'on a des figures emblématiques. Adama Traoré, Zineb Redouane, Rémi Fraisse, Cédric Souvia.
Pourquoi, selon vous, la police tue?
C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. La police tue maintenant. Pourquoi elle tue? Est-ce que ce sont des dérapages? Est-ce que c'est le résultat d'une politique répressive? Est-ce que c'est une autonomisation de la police aussi, qui a tendance à faire un peu ce qu'elle a envie de faire? Et derrière, oui, nous, on voudrait discuter de la répression politique. Et on voudrait discuter de cet ordre public qu'on nous dit important à maintenir. Et nous, on pense qu'il y a un ordre social, oui, c'est l'ordre des dominants.
Il y a aussi un ordre public à maintenir.
Oui, mais cet ordre public-là, c'est celui des riches contre les pauvres. C'est celui dans lequel ils veulent pas qu'on conteste. Et c'est celui-là qu'on veut remettre en cause. Donc là-dedans, oui, il y a un aspect répressif, une répression qui se généralise, qui se perfectionne. On l'a vu dans les manifestations, mais pas que. Aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est aussi l'occasion de renforcer et de perfectionner encore plus la répression et ses logiques de surveillance, de contrôle de la population.
C'est une répression.
Ben oui, quand même. Les dizaines de milliers d'amendes.
Il y a une dictature sanitaire qui s'est installée en France.
Toutes ces amendes. Nous, on prononce pas ce mot-là parce que la dictature, il faut quand même comparer ce qui est comparé. Enfin, on n'est pas dans une dictature, mais oui, on est dans un régime autoritaire, en tout cas qui utilise de plus en plus des méthodes autoritaires et qui a tendance à toujours imposer, contrôler, surveiller, alors qu'on pense qu'il y aurait justement autre chose à faire et qu'on a besoin d'un monde moins violent.
J'ai regardé votre programme, justement. Dans quelle France voulez-vous nous faire vivre, Philippe Poutou? Désarmement de la police. Oui. Hein, il faut absolument désarmer la police. Alors, je vois pas comment elle va faire. Non,
désarmer la police. Ah oui. Dans les manifestations notamment.
Oui, mais évidemment. Pas la police qui intervient quartiers difficiles pour lutter contre les trafiquants de drogue.
Alors là, il ne faut pas non plus tout mélanger. Les quartiers difficiles, il n'y a pas toujours.
Non, il n'y a pas toujours.
Dans les quartiers populaires, on est pour désarmer par contre. Mais la lutte antiterroriste, elle ne peut pas être désarmée.
Je ne parle pas de la lutte, je parle de la lutte contre les trafics.
Ou les trafiquants, ou les truands. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que les quartiers populaires, ils sont souvent envahis par des polices qui jouent au cow-boy. Et c'est facile à confondre tout volontairement. Les jeunes de quartier sont emmerdés, archi-contrôlés et souvent pourchassés. Donc là, oui, là, on est pour désarmer cette police-là. Mais c'est pas juste le désarmement de la police, c'est aussi d'arriver à faire discuter que la réponse aujourd'hui, ce qu'on appelle l'insécurité ou ce qu'on appelle les violences, les incivilités ou tout ce qui peut... nous, on pense qu'aujourd'hui, le problème premier, c'est le chômage et la précarité. Si la société, elle était capable d'offrir un avenir à tout le monde, un logement, pouvoir se soigner, pouvoir se transporter, s'il y avait tout ça, s'il y avait ces services publics qui n'existent plus, eh bien la société, les problèmes se poseraient différemment.
Poutou,
donc nous, on est pour des réponses sociales.
Voilà. Vous proposez une France aux frontières ouvertes, liberté de circulation, d'installation, avec ou sans papier d'ailleurs.
Ouais.
Avec ou sans papier.
Nous, on est pour l'accueil des migrants, ça c'est sûr.
Vous les installez où?
Ben, vous savez qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de bâtiments qui sont vacants. Donc déjà, non, mais techniquement, c'est possible.
On accueille
la France comme l'Europe, ce sont des zones très riches. Là, par exemple, Jordanie ou la Turquie accueillent des millions de migrants, en fait. Oui. Et ce sont des pays qui sont soignés,
dans des camps.
A priori, plus
dans
pauvres.
Des camps.
Oui.
Dans des camps.
Non, mais nous, la différence, c'est qu'on a les moyens.
Humainement,
on veut nous faire croire qu'on est dans un monde où, en fait, les pauvres, ils ont qu'à rester dehors. Alors qu'en plus, une idée importante quand même, c'est que, oui, mais les migrants. Donc les migrants, ils fuient quoi?
Donc les migrants.
Ils fuient des dictatures, ils fuient des misères, ils fuient même.
Donc vous dites aux migrants, venez en France.
on dit pas venez en France. De toute façon, ils veulent survivre et ils viennent vers les pays où il y a un peu plus de richesse. Donc ça, c'est logique. Et nous, on dit que des pays qui ont de la richesse, ils ont pas le droit de refuser l'entrée des gens qui sont en train de crever à l'extérieur.
Donc frontière ouverte.
D'autant plus que l'État français est responsable, comme tous les États impérialistes, de la misère qu'il y a ailleurs. Parce que l'État français soutient quand même pas mal de dictatures. Là, je parlais des armes tout à l'heure. Mais quand la France vend à la dictature égyptienne des armes qui servent à réprimer son peuple, ou quand la France vend aux Émirats arabes unis, hein, puisque c'était l'enjeu du contrat des Rafales il n'y a pas longtemps, ou à l'Arabie saoudite, bon ben voilà, nous on pense qu'il y a quand même un problème politique qui est posé de fond. C'est pourquoi la France soutient des régimes qui, eux, dont on sait en plus qu'ils sont plus ou moins en soutien du terrorisme international. Donc il y a aussi cette question impérialiste, cette question colonialiste. Et donc du coup, les pays riches, ils peuvent pas dire non, les gens rentrent pas. Les pays riches ont leur responsabilité à l'égard de cette misère-là.
Donc du coup, et puis
c'est une société humaine. On a envie d'être solidaire, de coopérer. Les frontières, même du point de vue de la crise sanitaire. Les frontières, c'est une mauvaise réponse de fermer les frontières. Donc du coup, oui, il faut ouvrir les frontières, il faut aérer. Après, par contre, il faut trouver des solidarités et une nouvelle redistribution des richesses qui permettrait d'accueillir et de faire que les gens vivent.
Aucun salaire en dessous de 1800 euros net, c'est ce que vous proposez. Mais je me mets à la place d'un patron de PME ou de TPE. Comment fera-t-il pour payer les cotisations sociales?
C'est évident qu'il faut tout revoir. La fiscalité, il faut la revoir. Le système de sécurité sociale, il faut le revoir. Parce qu'en fait, l'idée du salaire, pour nous, ce serait un salaire à vie. C'est-à-dire arriver à construire une véritable sécurité sociale par un système de cotisation qui permette d'assurer un revenu indépendant du fait qu'on travaille ou pas.
Mais il va falloir cotiser.
Ben oui, mais c'est pour ça qu'on défend, bien sûr.
Il va falloir que le patron cotise aussi.
Ouais, beaucoup plus qu'il ne le fait actuellement.
C'est-à-dire que vous alourdissez les cotisations patronales.
En fait, nous, on est pour supprimer toutes les exonérations de cotisations sociales. On est pour revenir à l'impôt sur les sociétés tel qu'il était avant.
Mais le patron de PME, il fait comment? Mais il fait comment? Expliquez-moi, parce que
vous avez quand même un âge où vous pouvez vous rappeler de ce qu'il y avait il y a 40 ans.
Oui.
Il y a 40 ans, le capitalisme existait avec des impôts sur les sociétés et des cotisations sociales beaucoup plus importantes pour l'ensemble des entreprises, et notamment les grosses entreprises. Et puis ça fonctionnait. C'était moins la crise qu'aujourd'hui. Et on s'aperçoit que plus il y a des réponses soi-disant à la crise, c'est-à-dire en exonérant les cotisations sociales, en baissant la fiscalité des plus riches, on s'aperçoit qu'on s'enfonce de plus en plus dans la crise.
Quand on exonère les cotisations sociales, pardon, mais ce sont les plus modestes que l'on aide.
Pas forcément. Non. Les milliards d'exonération, c'est surtout les grosses entreprises qui en profitent. Hein. Après, évidemment, tout le monde en profite un peu, chacun à son échelle. Mais là, c'est quand même plus les gens sont en gros, en général, plus ils s'enrichissent. Donc, parce que plus ils profitent de ce qu'on appelle
1800 euros net, le salaire de base.
Nous, le calcul qu'on fait, c'est pour vivre décemment, il nous faut combien ? Pour vivre normalement. On pense qu'en dessous de 1800 euros, même voire peut-être 2000 euros, on peut pas vivre décemment. D'ailleurs, le gouvernement, il avait bien compris, parce que son petit chèque de 100 euros, là, de pouvoir d'achat, il le donne à qui? À tous ceux qui ont moins de 2000 euros net par mois, en moyenne sur l'année. Donc, il a bien compris que c'est un peu le seuil en dessous duquel les choses commencent à être compliquées. Alors, le truc, il est simple, c'est, il y a besoin de ça, il nous faut ça. Une retraite à 60 ans, il nous la faut. La diminution du temps de travail, il nous le faut.
Sixième semaine de congé payé.
Parce qu'en fait, une société moderne,
Revenu d'autonomie pour les 16-25 ans, combien ?
Sur un SMIC, enfin nous on est pour que ce soit un SMIC aussi.
Un SMIC aussi. Mais pour en fait, c'est 16-25 ans.
Sans travailler. Et au bout, c'est. Oui. L'étude, c'est un travail d'une certaine manière. Donc, il y a des tas d'actionnaires qui gagnent des fortunes énormes sans rien travailler, ils branlent rien, ils gagnent quand même énormément. Hein, on a même des gens, je crois que vous connaissez peut-être un peu Drahi, par exemple, pour parler d'un riche, le 10e du classement des fortunes de France, il a combien ? 12 milliards. Bon, alors si on va nous expliquer que gagner 1800 euros, ce serait scandaleux, et puis il y en a qui ont des milliards.
C'est scandaleux que les milliardaires, par leur travail, leur investissement.
On n'a pas 12 milliards par son travail, c'est pas possible.
S'enrichissent.
Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille. C'est pas possible. Ou alors, il fait un super diplôme et on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, c'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins. C'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse, à ce niveau-là, c'est du vol.
Mais comment pouvez-vous dire ça?
Comment vous pouvez penser qu'on peut avoir 12 milliards comme ça?
Je ne pense rien. Je ne les ai pas,
Divisez les 12 milliards sur l'histoire de l'humanité, à partir de quand il faudra avoir bossé pour pouvoir avoir 12 milliards en comptant qu'on ait 2000 euros par mois.
Donc c'est ce
incroyable.
C'est ce système que vous voulez mettre.
On peut vivre avec 1 million d'euros, par exemple, ce serait presque raisonnable, 1 million d'euros. Mais pourquoi 12 milliards? Pourquoi 150 milliards? Pourquoi aujourd'hui? Et c'est ça qui fait que.
On est à peine riche, avec 1 million d'euros.
C'est du vol, parce qu'en fait, cette richesse-là, elle vient du pillage de la richesse collective. Il y a des très riches parce qu'il y a des très pauvres.
Et donc, si on veut résoudre la question.
Si
on veut résoudre aussi l'investissement, mais aussi de l'innovation, mais aussi
si on veut,
oui, Philippe, ça existe.
L'innovation, et de la création d'emploi, l'innovation dans le rafale,
et la création d'emploi. Ouais.
Non, bon, mais non, Philippe, mais il faut bien comprendre que la pauvreté, c'est parce qu'il y a du pillage, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres.
Alors, Philippe,
c'est pas une fatalité. Il n'y a pas des pauvres parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est parce qu'il y a un système qui fabrique ça.
J'ai une dernière question à vous poser parce que ça m'a surpris. Vous dites, il faut absolument rendre tous les transports gratuits, les transports publics, je parle, gratuits.
Ouais.
Le métro gratuit, c'est ça. Le bus gratuit, le train gratuit.
Ouais, c'est vrai.
Et l'avion gratuit aussi.
Bon, ceci dit, il est gratuit pour plein de gens, le train. Hein. Vous savez, hein, les députés,
les
SNCF, gratuit,
les cheminots, souvent.
Les cheminots aussi. Ben, mais il y a plein de gens qui l'ont gratuitement. Non, mais pour nous, c'est un service public un peu comme la santé ou comme l'école.
Tous les transports sont rendus gratuits.
On pense que c'est des besoins fondamentaux. En fait, l'idée, c'est un peu comme...
prendre le train gratuitement.
Ouais, mais c'est un peu comme l'industrie pharmaceutique. On pense que la santé, ça devrait être complètement gratuit. Donc, ça veut dire public. Et nous, on est pour un service public du transport, on est pour un service public de l'école, de la santé, et que ces besoins fondamentaux, ce soit qui permettent l'accès à l'ensemble de la population. Et donc ça permet aussi de discuter autrement que des questions de salaire, en fait. C'est comment une société peut donner accès aux besoins fondamentaux, et même l'alimentation d'une certaine manière, ou l'énergie même, on discute. Il y a des associations
aussi.
Non, mais il peut y avoir
le logement gratuit.
Il y a beaucoup de discutes aujourd'hui dans le milieu associatif d'une sécurité alimentaire, et y compris même sur l'énergie. Vous savez, la question de l'eau ou de l'électricité, les premiers mètres cubes ou les premières consommations d'énergie, elles puissent être gratuite parce que les gens ne peuvent pas se le payer. Donc c'est ça qui est important. Donc l'idée, c'est arriver à faire une société où on socialise et on développe des services publics au point que justement on répond aux besoins des populations.
Merci Philippe Poutou d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC et BFM TV.